L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Décembre 1943. Dans la France occupée, c'est le pire moment de la guerre. Dans le massif du Jura tout particulièrement, à Pontarlier, où le froid se fait polaire alors qu'il n'y a plus de charbon pour alimenter les poêles. Même la Kommandantur est mal chauffée, malgré les réquisitions, ce qui met le chef de mauvaise humeur. Ah, ces cochons de Françoise cachent leur bois et leur charbon, ça c'est sûr! Et il ne croit pas si bien dire. Les habitants du coin sont de plus en plus nombreux à rejoindre la résistance ou à passer des renseignements à la France libre et aux alliés, d'autant que la frontière suisse est là, toute proche. Pour les calmer, un décret vient d'être affiché indiquant que des otages seront bientôt fusillés. En allemand et en français, sur une lugubre affiche jaune, le texte menaçant s'affiche sur tous les murs de Pontarlier. Mais ça ne suffira pas sans doute. Tout se joue encore à Stalingrad, dans un froid plus intense encore, loin, là-bas, vers l'est. Or, voici que le silence de ce petit matin glacial est rompu par le pas lent d'un cheval. Un vieux cheval maigre qui, sans doute, fut beau jadis et se traîne maintenant, fourbu et flanqué, posant péniblement ses sabots sur le sol neigeux. Il est 9h. 9h, c'est l'heure H dans mon histoire. Descend alors un cavalier presque aussi fatigué que sa monture, un Don Quichotte bizarre qui s'avance dans la cour puis gravit le perron de la Kommandantur.
« Halte, papyr !»
crie le planton, surpris. L'homme se plante devant lui et fait un signe cabalistique, comme une passe magnétique de son front à sa bouche et de sa bouche à son cœur. « Mais qu'est-ce que c'est ça, la Malek ? Et ce costume ?» se demande le planton. L'individu très âgé est enveloppé dans un étrange habit oriental. Sa tête barbue émerge d'un couvre-chef exotique. Serait-ce un juif inexplicablement venu se jeter dans la gueule du loup ? Je viens me constituer prisonnier pour me proposer comme otage, dit-il simplement. Informé, l'Obersturmfuhrer descend et, d'une humeur massacrante, renvoie l'intrus dans la tempête de la neige. Maudit français ! Un arabe, un vieux marchand de tapis. Voilà ce qu'ils osent m'envoyer pour me défier, pour défier le Reich. Et d'où sort-il cet indigène ? Il est né ici, répond d'une petite voix aigre un personnage en civil qui a suivi son chef. Ici ? Eh bien oui, à Pontarlier, il y a bien longtemps, résume le policier.
Oh, c'est pas un arabe, il s'appelle Philippe Grenier, c'est un notable, un médecin, issu d'une vieille famille franc-comtoise.
Bah, il a même été député. C'est juste converti à l'islam, c'est tout. Vous avez donc eu un député musulman, ici, dans le Jura ? Demande l'Obersturmfuhrer, incrédule. Eh bien, pauvre France ! Reparti chez lui, sur son vieux cheval squelettique, Philippe Grenier se souvient du temps de sa splendeur. « V'là le député musulman !» criaient les Parisiens sur son passage. Les gamins, les badauds se pressaient autour de lui quand il apparaissait aux abords de la chambre, drapé d'un grand burnou blanc, la tête coiffée d'un splendide turban vert. Cap au vent, il avançait, chaussé de fabuleuses bottes marocaines en cuir rouge, cornementées de fines arabesques d'or. À son passage, la circulation s'arrêtait, Paris s'engorgeait, les pêcheurs abandonnaient leurs lignes, tandis que les lavandières se répandaient sur les quais comme une nuée de houris. Quand enfin parvenu au bord de la Seine, le député Grenier procédait à ses ablutions rituelles, le peuple entrait en transe. Prosterné vers l'Orient, l'homme recueillait un peu d'eau dans le creux de ses mains pour y plonger visage et barbe, sous les commentaires étonnés de la foule qui n'avait jamais vu ça. Il fallait l'intervention de la police pour écarter les curieux et permettre à l'honorable parlementaire de regagner la salle des séances. La France, en 1896, contrôle un vaste empire colonial. en Algérie, en Afrique noire, dans ses protectorats du Maroc et de la Tunisie, aux Comores, à Djibouti, allant jusqu'en son comptoir indien de Chandernagore. Les musulmans y sont nombreux. Pourtant, le Mouturban n'est mandaté par aucun de ces lointains territoires dont les indigènes, d'ailleurs, n'ont pas le droit de vote. Cet élu sublime, qui semble surgir des sables sahariens, représente les montagnes magnifiques, mais peu exotiques, vous en conviendrez, du Jura. Il est né à Pontarlier, le 14 août 1865, dans le très catholique département du Doubs. Mais qui est ce croyant, élu sous l'étiquette radicale, qui cherche sincèrement à concilier foi musulmane et esprit républicain? Pourquoi se manifeste-t-il de manière si ostensible? Et comment a-t-il réussi à convaincre les électeurs de son département, lui, si différent des rustiques montagnons du Haut-Doubs? L'homme est déjà connu là-bas. Fils d'officier, il a fait de brillantes études de médecine. Par sa mère, il descend d'une lignée de parlementaires locaux et peut donc être considéré comme un notable, à une petite particularité près. Parti à 29 ans rendre visite à son frère en garnison à Blida, il s'est pris de passion pour l'Algérie et son peuple. Il a appris l'arabe, visité les mosquées et sympathisé avec des indigènes. Puis survient l'épreuve. Une grave maladie le cloue au lit pendant des semaines. Le jeune homme agonise de longues heures entre la vie et la mort. Sur la suggestion d'un ami arabe, il invoque Allah et il guérit. Alors, laissant l'habit européen pour la djellaba, Philippe Grenier se convertit. Il part en pèlerinage pour la Mecque, la grande aventure au temps des caravanes de chameaux et des felouks à voile. Quand il revient en France, c'est un hadj authentique qui a vu la pierre sacrée et a droit au turban vert. Au pays, voilà qu'il conserve le vêtement de sa religion. Alors il étonne, mais les paysans n'y voient qu'une innocente manie. Et puis, ce curieux docteur Grenier sait se faire aimer. Médecin prévenant, disponible, il soigne les petites gens, parfois gratuitement. À cheval, il part en tournée hors de la ville, portant secours dans les fermes et les habitations isolées. La nuit, dans la neige, c'est parfois la silhouette fantastique d'un cavalier arabe qui apparaît au moment où la famille désespère pour apaiser les fièvres d'un enfant ou aider une mère à accoucher. Le lion du Jura, comme on le surnomme, devient donc populaire. Il est même élu au conseil municipal de Pontarlier. Et ce succès inattendu l'encourage à viser plus haut. Or, le 15 octobre 1896, le député de Pontarlier, Dionys Ordinaire, meurt en cours de mandat. Sa succession paraît assurée. Son fils, Maurice Ordinaire, chef de cabinet d'un ministre, est déjà conseiller général. Au scrutin organisé en décembre, il affrontera Émile Grillon, ancien président du conseil général. Un duel de notables qui ne passionne pas les électeurs. Jusqu'à l'entrée en scène de Philippe Grenier, le candidat musulman qui se réclame du radicalisme. Il le dit, il l'écrit, il est partisan de la liberté absolue des religions. Il propose aussi l'organisation de restaurants populaires à bon marché pour les indigents et de bains publics et gratuits dans toutes les communes. Charité coranique et hammam pour tous. La campagne est brève. Maurice Ordinaire, trop peu connu encore, n'a pas eu le temps de mobiliser les réseaux de son père. Avec 3497 voix au premier tour, il est distancé par Grillon qui en compte 4853. Philippe Grenier, quant à lui, arrive troisième avec seulement 1671 bulletins. Un score honorable pour un candidat aussi farfelu, mais très insuffisant pour songer à se maintenir. Philippe Grenier refuse de se désister au second tour. « J'en ai pas le droit », explique-t-il. Allah veut que j'enseigne sa religion à la chambre. Manifestation de la providence divine ou simple manipulation? Il se produit alors un de ces tours de passe-passe électoraux dont la France a le génie. Maurice Ordinaire comprend que la partie est perdue pour lui. Mais il se dit que des élections générales auront lieu un an et demi plus tard. Il ne s'agit que d'un contretemps. Encore faut-il, dans l'intervalle, conserver au chaud la circonscription et ainsi empêcher que son rival Grillon ne s'en empare. Il se retire donc en appelant ses partisans à voter pour le musulman. Au second tour, Philippe Grenier est élu par 5141 voix contre 4856. Personne ne s'y attendait. Et moins que personne, le préfet, qui n'avait pas pris cette candidature au sérieux, révélera un jour le ministre de l'Intérieur au moment du scrutin, qui enguirlande copieusement son préfet.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire étonnante de Philippe Grenier, surnommé le Lion du Jura. Nous sommes fin décembre 1896. On retrouve Philippe Grenier au 135, boulevard du Montparnasse à Paris. Une haute façade blanche qui, à part cela, n'a rien d'une médina. Un banal immeuble parisien, cet hôtel des États-Unis qui, des décennies durant, reçut les voyageurs d'Europe et d'ailleurs. Henry Miller y fera par ailleurs quelques folies. Philippe Grenier, bien avant lui, s'y installe très sagement, non sans attirer une foule de curieux qui demandent audience. Les parlementaires sont en vacances. Le député musulman de Pontarlier ne fait que passer au Palais Bourbon pour les formalités administratives. La France entière prépare Noël. Lui, indifférent à sa solitude dans la grande ville affairée, s'apprête à convertir la République aux préceptes du Coran. Dans cette entreprise, Philippe Grenier trouve immédiatement une auxiliaire de choix. La presse. C'est la trêve des confiseurs, tous les chroniqueurs politiques sont au chômage quand cette élection surprise d'un converti en habit de bédouin le rapporte sur un plateau d'argent le sujet de l'année. Alors quand l'élu vient à la capitale prendre possession de son siège, les rédactions se déchaînent. Tous les matins, tous les soirs, dans sa petite chambre d'hôtel, Philippe Grenier se fait porter la presse qui, en quelques jours, le rend aussi célèbre que Jaurès et Barrès. La République libérale, journal d'Arras, a ouvert le feu en souhaitant, avant même le scrutin, tout le succès au candidat prophète. Quel dommage qu'il n'ait, paraît-il, que peu de chances d'être nommé. Ce musulman sincère nous changerait au Parlement des libres penseurs socialistes qui meurent dans les bras des curés et des chrétiens charitables et qui tiennent à éterniser la servitude des prolétaires. Le journal Le Soir parle quant à lui d'un déséquilibré. Jadis soumis à une surveillance médicale spéciale dans une maison d'ordre médical. Faux. C'est archi-faux, bien sûr. D'ailleurs, malgré que le journal La Liberté juge sa profession de foi trop longue, ils écrivent ceci. Il est impossible de dire que l'on a affaire à un maniaque dont l'esprit enfante les conceptions les plus excentriques. Le docteur Grenier apparaît comme un réformateur minutieux. Ce sont justement ces airs de doctrinaire subversif qui le rendent suspect aux journalistes de droite. Ainsi, la rédaction monarchiste du journal gaulois se méfie du prophète, qui viendra réclamer des droits civils et politiques en faveur de ses frères d'Algérie et l'impôt progressif sur le revenu contre ses frères de France. Le très conservateur journal Le Temps écrira encore « Nos paysans ne l'ont élu que pour une moitié de son programme, car ils ne sont pas utopistes. En devine-t-on l'autre moitié ? Le mariage libre ? La recherche de la paternité ? L'égalité des enfants naturels et légitimes ? La polygamie autorisée ? L'admission des mahométans aux fonctions publiques ? La reconnaissance officielle de leur culte ? L'abolition du régime d'exception qui leur interdit l'exercice de nos droits de citoyens français ? Pourtant, une fraction des catholiques ne fait pas si mauvais accueil à l'apostat. Pour tout dire d'un mot, je préfère un musulman sincère et sans fanatisme à un homme qui n'a pas de religion du tout, expliquera un journaliste dans le journal Le Soleil. Certes, poursuit-il, l'entrée d'un musulman à la chambre est une nouveauté. Le turban et le burnous du docteur Philippe Grenier étonneront au milieu des jaquettes et des redingotes de nos députés. Mais on s'y fera. Et quand il y a 100 députés dans une chambre française pour représenter les intérêts de la tribu d'Israël, je trouve assez juste qu'il y en ait un pour défendre les droits de 4 millions de sujets arabes et kabyles que la racaille juive exploite, rançonne et opprime indignement. L'islam au secours du nationalisme antisémite et antiparlementaire. Et si l'affaire du député musulman se révélait plus sérieuse qu'elle n'en avait l'air. La République sort à peine du Panama, grand scandale politico-boursier où des dizaines de parlementaires sont accusés d'avoir touché et d'avoir reçu un chèque pour soutenir la compagnie chargée de percer l'isthme centra-américain. On ne parle plus de députés, mais de chécards, tous vendus, tous corrompus. C'est bien pourquoi les journaux apprécient tant la sincérité de Philippe Grenier. Cette qualité naïve et même un peu niaise, s'agissant d'un homme de pouvoir, prend une valeur particulière dans cette période de crise morale. Et puis, ce costume arabe. Comme on le lit en légende d'une caricature, c'est l'habit idéal pour toucher un chèque. Décidément, ouais, la presse et l'opinion préfèrent le chèque au chécard. J'aime encore mieux voir entrer à la chambre un mufti sincère qu'un mufle déguisé, répond toutefois un éditorialiste du National. Quant à Jean Jaurès, il écrira dans le journal Le Matin du 29 décembre une véritable lettre ouverte adressée au prophète de Dieu. « Laissez-moi vous dire avec cette sincérité que vous semblez aimer que votre élection est un des événements les plus considérables de ces dernières années. » Le député socialiste du Tarn dira à son nouveau collègue du Doubs « Ce qui est important dans votre élection et peut-être décisif, c'est que par vous, pour la première fois, pénètre au Parlement un député des Arabes. Le plus urgent, semble-t-il, est de les défendre contre nos préjugés. La vérité, c'est qu'on a calomnié à plaisir ce peuple arabe, pour le dépouiller de toute alaise et pour le dépouiller sans vergogne. Voulez-vous dire qu'il faut leur conférer immédiatement les droits politiques, l'électorat et l'éligibilité ? Oui, il le faut. Mais à la condition de prendre au préalable des mesures décisives qui ramènent à la France le cœur des Arabes. Et là, pour Philippe Grenier, la voie est tracée. Il ne lui reste plus qu'à convaincre la Chambre. Fait tout de suite sensation, le député en gandoura arrive en pleine empoignade. La Chambre, à la demande de l'extrême gauche, doit se prononcer sur l'élection de l'abbé Guéraud à Brest, que certains voudraient faire annuler pour ingérence cléricale. Âgé de 31 ans, Grenier est le plus jeune député de la législature. Peu timide, il demande tout de suite la parole et les greffiers de l'époque ont alors à noter un mouvement de séance absolument sans précédent. M. Grenier se présente à la tribune et s'incline en portant la main à son front. Le salut de la paix. Henri Brisson, qui préside la séance, en devient blême. Républicain austère, que ses collègues ont surnommé le corbillard national, il désapprouve et le fait immédiatement savoir. « La Chambre me permettra sans doute de faire remarquer à qui de droit que les chambres législatives ne sont pas faites pour les manifestations d'un culte. » Applaudi, il poursuit. « Mais simplement pour la discussion des lois et des propositions qui leur sont soumises. » Sans prendre la peine de répondre au président, l'orateur, impavide, va droit au fond du débat. Le député Grenier, radical socialiste, et Mahométan vole au secours d'un curé breton, au nom d'une conception nécessairement très personnelle des rapports entre la politique et la religion. Messieurs, en prenant aujourd'hui pour la première fois la parole parmi vous, je tiens à vous remercier des sentiments de tolérance dont vous avez fait preuve à mon égard au moment de la validation de mon élection. Et si aujourd'hui je viens prendre la défense de M. l'abbé Guéraud, c'est au nom de ces mêmes sentiments de tolérance, de liberté et de justice dont vous avez fait preuve lors de l'examen de mon élection. Des « très bien, bravo » sont entendus sur divers bancs de la Chambre. « Vous prêchez dans le désert !» interrompt un réactionnaire spirituel sans que l'hilarité générale trouble l'orateur. « Je suis partisan absolu de la liberté de croyance, des idées et des opinions », conclut le député Grenier. Dès sa première intervention, Philippe Grenier est devenu la bête noire du président Brisson, pour qui cet habit de bédouin constitue un véritable outrage à la dignité du Parlement. « Mon cher collègue, le carnaval est fini !» l'apostrophe-t-il plusieurs fois vainement dans les couloirs. Ce qui exaspérait encore plus Brisson, racontera le député Vignier-Docton, c'est la manie qu'avait notre bizarre collègue, quand on discutait le budget, de déposer à tour de bras des amendements ayant tous pour objet d'augmenter, dans des proportions fantastiques, les chiffres demandés par la commission ou le ministre. Notre musulman jouait avec les millions et jetait des sommes effarantes sur les petits papiers que, sans se lasser, il remettait entre les mains du président. Tout cela était repoussé, bien entendu, mais faisait perdre du temps et tenait beaucoup de place. Et de fait, Philippe Grenier a un avis sur tout, qu'il s'agisse du traitement des petits fonctionnaires, de l'état des wagons de troisième classe, des fortifications de Cherbourg, de la pisciculture. Ah, c'est sûr, c'est un parlementaire assidu, qu'on voit à toutes les séances, égrenant sur son banc le chapelet de l'islam. Son nom est un jour tiré au sort, selon l'usage, pour faire partie de la délégation envoyée par la Chambre aux obsèques d'un collègue. Pareille occasion, députés et sénateurs doivent arborer leurs insignes officiels, l'écharpe aux trois couleurs et le baromètre, petite épinglette aux armes de la République. Le costume arabe, ne comportant ni ceinture ni boutonnière, Grenier innove. Devant la famille consternée, il se présenta le chef enveloppé de son écharpe, dont il a fait un grand turban tricolore que le baromètre maintient sur le côté comme une boucle d'aigrette. « Eh bien, quand Brisson apprendra ça, il en aura une attaque !» s'esclaffe un sénateur. Et c'est la mine en joie que les membres de la délégation parlementaire suivent, assez peu dignement, c'est vrai, le convoi funèbre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte la remarquable histoire de Philippe Grenier. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le premier député musulman de l'histoire de France. En sa double qualité de médecin et de musulman, il combat vigoureusement l'alcoolisme. Demande la diminution du nombre de débits de boissons, la taxation des liqueurs. Et ce sera la goutte de trop, si vous me passez l'expression. Celle qui va lui coûter son siège, car la légendaire absinthe de Pontarlier fait vivre tout le pays du Haut-Doubs, et il ne faut pas jouer avec cela. Battu en 1898 par Maurice Ordinaire, dont le calcul politique se révèle finalement d'une parfaite justesse, Philippe Grenier ne recueille plus que 984 suffrages au renouvellement de 1902 et abandonne dès lors la politique. Bientôt à l'oublier. Musulmans, au fond, pourquoi pas ? Les beaux esprits avaient épuisé la question. Ce n'était qu'un ancien député, un parmi quelques centaines, avec cette petite particularité d'une croyance exotique plus commune au fond que beaucoup de systèmes ésotériques en vogue à l'époque. Un monothéiste, un vague monothéiste, vaguement enturbanné, sur qui on avait tout dit et tout écrit. Il y avait bien ses sorties contre l'alcool de l'ancien député de Pontarlier, capitale mondiale de l'absinthe. Ah, c'est clair, la chose ne manquait pas d'un certain piquant. Mais quoi ? N'était-ce pas ce qui l'avait fait battre et la certitude qu'il ne serait jamais réélu? Et pourquoi s'intéresser à un battu? Non, Lion du Jura avait perdu de sa superbe. Il n'intéressait plus, il fallait l'oublier. Et puis, intelligence suprême ou suprême ingénuité? Voici qu'au moment où sa lueur chancelle, Philippe Grenier laissa filtrer une nouvelle qu'aucun journal ne pouvait ignorer. Un potin que les écotiers, les dessinateurs, les chansonniers, les crieurs, tous les fabricants de rumeurs et les colporteurs de bruit se devaient de répandre à leur compte, de commenter, d'amplifier, d'extrapoler jusqu'à la fureur. Une nouvelle? Oh, mieux que cela, la nouvelle, celle-là précisément qu'il faut aux journaux, qui ravive les beaux esprits fatigués, celle qui s'impose d'évidence comme l'information réjouissante et définitive dont il faut immédiatement s'emparer pour briller. Et la nouvelle se répand très vite. On la murmure à Pontarlier, sans savoir s'il faut y croire. Les députés du Doubs la rapportent au Palais Bourbon, cette enclave de provinciaux en plein Paris, où l'on aime tant à cancaner. On la chuchote dans l'hémicycle, on la confirme dans les couloirs et on la claironne à la buvette. Le député poète Clovis Hugues la met en vers. Le député compositeur Maurice Bouquet la chantonne gaillardement. Et la nouvelle, toujours plus bruyante, parvient aux oreilles d'un huissier qui passe tout près, puis d'un séancier qui traîne salle des pas perdus et qui court, le cœur battant, vendre l'information dans toutes les salles de rédaction. La nouvelle a quitté le village parlementaire. Les chroniqueurs s'en emparent, tout heureux de l'aubaine. Les typos la composent, les yeux brillants, rigolards. Et alors, de puissantes machines la brassent, la reproduisent, l'étalent en gros caractères sur des fleuves de papier. Le député musulman se marie. Allez donc, là pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Chacun veut en savoir un petit peu plus d'ailleurs. Et comme on ne sait rien, on invente, bien sûr. Heureux temps où les journaux sont peuplés de poètes. La presse libre à cette époque n'est pas celle qui vérifie l'information, qui contrôle le moindre commérage, prisonnière des plus menus faits dans leur aridité stupide, mais celle qui raconte librement tout et n'importe quoi, qui enchante et qui donne un sens au chaos des dépêches. En l'an de grâce 1903, on écrit encore un journal comme un roman feuilleton, en sortant de table, la tête légère, les joues vineuses, l'imagination étoilée par l'action conjuguée des cafés, tabac et liqueurs absorbés dans la confraternité des dieux scripteurs. On vient s'asseoir l'esprit délié, le cœur content. Et c'est en petit écrivain qu'on jette vite, impérieusement, quelques phrases qui, certes, ne sont pas le réel, mais la manière dont le réel sera donné aux foules. À la plume, sur un mauvais papier, on gratte, on griffe, on biffe. Le message part vers les profondeurs de l'imprimerie. Et quel message, s'il vous plaît? Le député musulman se marie. Ah, le beau sujet, vraiment. A-t-il séduit une riche héritière? Ou enlevé la femme d'un incroyant pour en garnir son sérail? Quelle est cette houerie? Va-t-il lever le voile? Sera-t-il fidèle parmi les infidèles? Oh, que de bons mots et que de bonnes questions. Cette affaire du médecin de Pontarlier, converti à l'islam et envoyé au Palais Bourbon par un caprice du destin si elle ne faisait plus recette, c'est qu'elle manquait de femme, tout simplement. Le Lion du Jura était curieux, mais un peu raseur en définitive. Un prophète amoureux, un prophète à femme, salace et libidineux peut-être, c'est tout autre chose. Le député musulman se marie. Bientôt on en cause jusque dans la moindre commune de France. Les conservateurs s'en affligent au bar de l'Union et les radicaux s'en amusent au café du Progrès. Pontarlier même est en révolution. Et Madame Grenier, mère, ayant mis en pièce son numéro du journal Le Pèlerin, pleure de rage, seule, dans son salon bleu, humiliée par un fils qu'elle aime et qu'elle souffre de ne pas du tout comprendre. Le député musulman se marie. Elle, elle sait. Elle sait avec qui, elle sait pourquoi, elle sait qu'une fois de plus, alors même que son siège de député lui avait rendu la dignité que ses lubies lui avaient fait perdre, elle sait qu'une fois de plus, son fils va paraître ridicule. la vie érotique de Philippe Grenier. Ah, il faut être un journaliste parisien ivre-mort pour y trouver quelque intérêt, et encore. Voyez-le, ce pauvre garçon, tout petit, bancroche, binoclard, le teint huileux, l'air exténué, plus malade que ses malades eux-mêmes, un intellectuel poussif et bouffi dont la pauvre ardeur ne peut se tendre que vers les songeries mystiques d'un Orient de pacotille. Philippe Grenier, séducteur, mais comment y croire? S'il avait été porté sur les femmes, il en aurait eu, et beaucoup. Quand il est arrivé à Paris en décembre 1896, elle ne manquait pas, qui faisait antichambre à l'hôtel des États-Unis. Si Philippe Grenier l'avait voulu, combien de poétesses soufis, combien de bourgeoises mystiques aurait-il pu séduire en digne fils du désert? Et au palais Bourbon, les bonnes fortunes manquaient-elles? Au cagibi des belles dames, réduit proche de la grande rotonde où les huissiers faisaient asseoir les jolies aguicheuses, n'aurait-il pas eu qu'à se servir? Le député Grenier, lui, n'a jamais usé de ses facilités. Un musulman au confessionnal. On l'aurait su. Non, Philippe Grenier n'est pas ce genre d'homme. Il reste figé, contraint, quand la chair se présente. Un curé comme son oncle, un curé peureux et concupiscent. L'Algérie avait mis des couleurs à sa foi éthérée, si bien qu'il se promenait en costume de chamelier. Là s'arrêtait toute sa fantaisie. À Pontarlier, quand il revenait après plusieurs semaines de session parlementaire, son appartement sentait la poussière et le renfermait. Des pièces glaciales, le garde-manger vide. Alors le bon docteur a recruté une bonne. Pas une bonne à la Fédo, la soubrette délurée propre à déniaiser les fils de famille, non. Une paysanne de la montagne, improuguin, travailleuse et qui ne rigole pas. Le saint homme en profite pour faire une bonne action, pour relever une famille malheureuse et diffamée. Marie-Antoinette Courtet a presque 18 ans de plus que lui. Née le 2 septembre 1847 d'une mère célibataire, c'est une moins que rien que sa laideur seule a sauvée de la honte. Assure qu'elle ne risquait pas d'être fille-mère à son tour, ni de se livrer à la prostitution. Un grand et maigre laideron campagnard aux longs pieds, aux traits arides. Voilà toute la conquête amoureuse de Philippe Grenier. Voilà cet oriental qui fait rêver les rédacteurs parisiens. Une pauvre sultane rurale, une vieille fille qui n'aura jamais d'enfant. Or, c'est elle qui va mater le prophète de Dieu. C'est elle et elle seule qui fera filer doux le docteur de la foi. Au lendemain de son élection, les commentateurs avaient annoncé sans vergogne que Philippe Grenier allait demander la législation de la polygamie. On lui prêtait un harem et, pour la procession du bœuf gras, les Parisiens lui avaient dédié un char sur lequel le député prophète se lavait les pieds, entouré de bayadères dénudées, une demi-douzaine de jeunes fiancées suggestivement voilées de gaz, telles qu'on s'imaginait l'Orient, au bal des Khazars. Marie à Marie-Antoinette Courtet, il fait moins le pharaon, notre prophète. Elle le bouscule, elle le houspille, elle lui dit ce qu'il doit faire. Catholique intransigeante, elle prend l'homme, mais elle ne prend pas le musulman, qu'elle dépouille très vite de ses rituels. Une fois, une seule fois, elle accepte de porter une robe orientale, pour le mariage, bien sûr, pour les photographes. Ensuite, elle reprend ses habits de paysanne et fait même la guerre à son pauvre mari pour qu'il s'habille comme tout le monde. « Le carnaval est fini », dit-elle. Ce que l'austère mais respectueux président Brisson n'a jamais pu obtenir à la Chambre, Marie-Antoinette l'impose à la maison et le moufti ne moufte pas. Le malheureux n'a plus le droit à l'habit de bédouin que pour les grandes occasions. Quand il reçoit un hôte de marque égaré dans les départements, quand il retourne dans la capitale en 1925 pour l'inauguration de la mosquée de Paris. Sinon, costume sombre de médecin de campagne, sans autre fantaisie qu'une petite calotte de velours qui le fait bizarrement ressembler à un rabbin. Tu es né catholique, tu es devenu musulman et tu finiras juif. Conclut son frère, un brin moqueur. Philippe Grenier ne sera pas prophète en son pays. Il a déçu. Il a eu beau pour son mariage travestir l'épousée en princesse des mille et une nuits, le succès n'a duré que le temps de la photo. Cette femme longue et sèche, à la mine mauvaise, aux faciès durs de plébéienne, n'est pas faite pour fasciner. Philippe Grenier va vivre avec elle plusieurs décennies de bonheur, un bonheur provincial, tranquille et serein, sans surprise. Un bonheur rangé, sans anicroche ni scandale. Madame Grenier-mère, outragée par cette mésalliance, peut au moins se trouver cette consolation que plus aucun mauvais journaliste ne vient troubler la vie familiale. Avec la paix du corps, Philippe Grenier a retrouvé celle de l'âme. On l'a oublié tout à fait. Longtemps plus tard, relisant les comptes rendus de ses discours à la Chambre, les historiens rendront justice au lion du Jura. Il fut prophète, non en religion, mais en politique. En effet, le 15 février 1898, à propos des achats de terres en Algérie, il s'élevait contre les spoliations dont étaient victimes les indigènes détenteurs du sol. Agir ainsi, c'est constituer une armée de malheureux qui sera un jour des plus dangereuses pour la sécurité de la colonie. Mort le 25 mars 1944, Philippe Grenier ne verra pas cette insurrection de la Toussaint 1954 qui, en marquant le début de la guerre d'Algérie, lui donnera raison. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Bruno Fulini.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.